Radio Républicaine, détente à soi. De là, Karine, Nico, Nana.
Voilà, mais les faits, les gestes de tous les jours,
non, les gestes de tous les jours, non, ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir.
Ouais.
Alors aujourd'hui, docteur, vous voulez comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre la stigmatisation?
Pour combattre la stigmatisation, je crois d'abord nous devons commencer à travailler au niveau de la communauté, pour que la communauté comprenne que le VIH-SIDA, une personne qui vit avec le VIH-SIDA, il a le même droit qu'une personne qui est saine. Donc, la sensibilisation au niveau communautaire, ça c'est très très important. Tant que la communauté a toujours des rumeurs, a toujours des fausses croyances, des fausses informations, il nous sera difficile d'arriver à renverser à la tendance par rapport à la stigmatisation.
Donc, il faut renforcer la sensibilisation.
Il faut renforcer la sensibilisation. Oui, là, au niveau communautaire.
Et cette sensibilisation va se faire comment? Est-ce que, d'après les statistiques, est-ce qu'il y a une bonne communication à propos de cela?
Oui, mais par rapport à ça, il y a beaucoup de projets, entre autres un projet que nous appuyons, en République démocratique du Congo. Malheureusement, ça ne couvre pas toute la RDC. Il y a ce qu'on appelle l'approche Champions Community. Donc, la communauté championne.
Mm-hmm.
La communauté s'engage et ils forment des communautés, ils forment de petits groupes où eux-mêmes, ils parlent de problèmes du VIH-SIDA. Ils comprennent ce qu'ils doivent faire pour le VIH-SIDA, ils doivent comprendre comment faire la mobilisation, où est-ce qu'on peut trouver des personnes à haut risque, comment on peut faire la prise en charge à base communauté des orphelins pour qu'ils ne soient pas délaissés. Et tout ça, c'est tout un programme. Et ce programme-là, le modèle des communautés champions, nous l'implémentons dans 40 communautés en RDC.
Mm-hmm.
Et dans ces communautés champions, ils ont comme objectif zéro stigmatisation, zéro discrimination.
Bien, on va poursuivre tout à l'heure le temps de recueillir la question de Mutombo depuis Chikapa. Bonjour.
Bonjour.
Oui, on vous écoute, Mutombo.
Bon, j'ai l'impression que chaque fois, quand je me rends pour faire le dépistage volontaire, je vois que le médecin ou bien ils ne disent pas la vérité. Ils essaient seulement peut-être de calmer, oh non, tout ça. Parce que j'ai fait le dépistage à Kinyakin, à l'hôpital Roi Baudouin. Allô?
Oui, on vous écoute.
Alors, on m'a dit que tout ça va, il n'y a rien, tout ça, bien sûr. On m'a remis un bout de papier, là, on avait écrit en conclusion absence d'anticorps anti-VIH.
Okay.
Ça me complique, qu'est-ce que ça veut dire?
Ouais. Voilà. merci beaucoup pour ta question. Parce que moi, je suis conseiller technique de prévention et de dépistage. Alors, il faut comprendre qu'il y a aussi un sérieux problème de formation aussi de prestataires, de médecins. Ok? Certaines aussi ne connaissent pas assez le VIH-SIDA que d'autres maladies telles que le paludisme, qui est très bien enseigné dans les facultés. Et que moi, lorsque je quittais aussi la faculté de médecine, je ne connaissais pas assez sur le VIH-SIDA. On a beaucoup de médecins aussi et beaucoup d'infirmiers qui ont des insuffisances par rapport à l'information du VIH-SIDA. Parce que quand nous formons, surtout dans des centres de conseil de dépistage, là nous formons très bien les prestataires, le médecin, les infirmiers, les psychologues, tout le monde, comment essayer d'annoncer le résultat. Il y a ce qu'on appelle l'étape de pré-counseling. Le médecin ou le prestataire te pose des questions, pourquoi tu es venu faire les tests, et jusqu'à ce qu'il te dise que le test a trois possibilités. Soit tu as un résultat positif, soit tu as un résultat négatif, soit tu as un résultat indéterminé. Il t'explique toutes ces étapes-là.
Mais là, pour son cas-là, il comprend pas ce que...
Non, mais l'absence-là, c'est-à-dire que tu n'es pas porteur du virus de VIH. Quand on dit l'absence d'anticorps, s'il y a présence d'anticorps anti-VIH, c'est-à-dire dans ton sang, tu as la présence du virus que le virus se fait signaler par les anticorps qui les combat.
Mmh.
Hein, dans votre cas, vous avez l'absence, donc vous n'avez pas, vous n'êtes pas porteur du virus du VIH.
Monsieur Mutombo est toujours en ligne. Mutombo, vous êtes là? Voilà, il n'est plus en ligne. Alors, vous avez dit les stratégies pour combattre la stigmatisation, c'est la, vous avez parlé de champion community, donc communauté champion, où les gens se retrouvent pour discuter de toutes les questions relatives au VIH-SIDA.
Oui, et la communauté s'organise. Hein, sur le plan de prévention, ils sont en train d'identifier quels sont les moyens de communication que nous avons dans notre communauté pour parler du VIH-SIDA. Hein, ils déterminent quelles sont les opportunités qu'on a dans la communauté pour parler du VIH-SIDA. Quels sont les moyens qu'on a dans la communauté? Nous ne voulons pas leur donner toujours de l'argent.
Mais tu dois prendre cette initiative, docteur Boulay.
Oui, on forme ce qu'on appelle un petit comité. On prend les leaders de cette communauté, les leaders d'opinion. On fait ce qu'on appelle une enquête CAP pour détecter quels sont les talents qu'on a dans cette communauté. Et la communauté elle-même s'organise. Allez dans une communauté, posez-les la question. Qui est la personne la plus influente ici dans la communauté?
Par exemple, vous allez dans un quartier?
Oui, dans un quartier, on voit les chefs de quartier parce que c'est la grande porte d'entrée.
Oui.
Lui, c'est un leader. Quelles sont les associations de jeunes que nous avons ici? Quelles sont les associations de femmes que nous avons ici? Quelles sont les associations de pêcheurs? Quelles sont les leaders d'opinion qui peuvent influencer beaucoup plus quand la personne dit dans le quartier, le mot d'ordre, ça passe par tout le monde.
Mm.
Donc, et ces gens-là qu'on utilise, qu'on leur donne, qu'on leur renforce un peu les capacités pour qu'ils puissent bien connaître l'infection à VIH.
Mm.
Et même la communauté, il fait un plan d'action pour dire, voilà les activités que nous sommes capables de mener hein, avec le timing. Pour nous, nous allons amener autant de personnes à se faire dépister. Donc, ils ont un plan d'action et nous, les ONG que nous appuyons, ils les encadrent pour qu'ils atteignent ces objectifs-là.
Mais est-ce que ça marche bien, cette stratégie?
Oui, la stratégie est en train de marcher et je crois l'année prochaine, on va augmenter le nombre de communautés championnes parce que pour que vous soyez appelé une communauté championne, vous devez produire des résultats par rapport aux objectifs que vous êtes fixés. Vous dites que non, notre communauté, nous nous fixons comme objectif de sensibiliser le jeune. 400 jeunes à sensibiliser. Notre objectif, l'objectif de notre communauté, c'est que les femmes qui sont enceintes puissent se faire tester avant l'accouchement. Et nous voulons que 40 femmes. Et ils ont tout un plan et des objectifs. Et après, on va faire une évaluation pour voir s'ils ont atteint ces objectifs. Et on les certifie qu'ils sont champions. Ce sont des compétitions des communautés et ça se passe très bien.
Kyungu nous appelle de Manono au Katanga. Bonjour Kyungu.
Bonjour monsieur Jeudi.
Nous parlons de la stigmatisation envers les personnes vivant avec le VIH-SIDA. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, donc moi je viens de connaître ces trois manières-là dont le VIH-SIDA se transmet. Donc, j'aimerais donc poser une question de savoir est-ce que quelqu'un qui utilise donc les poignards avec le celui qui est atteint par le VIH-SIDA peut aussi être contaminé ou non?
Vous utilisez le même poignard pour entrer à la maison?
Oui.
Oui.
Voilà, à la maison.
Non, mais c'est qui vous rassurez-vous qu'il n'y a pas contamination dans ces cas?
Voilà, il n'y a pas contamination dans ces cas. Le fait de toucher à la même porte chaque jour, ce sont les gestes de la vie de tous les jours.
Donc, de la vie courante,
il n'y a pas de danger. Mais peut-être qu'il veut dire si la personne a une blessure et puis qu'elle laisse des traces de sang, est-ce qu'à ce moment-là,
il y a un problème? Bon, avec le sang, mais il faut que aussi de l'autre côté, qu'il y ait une porte d'entrée.
Qu'il y ait une blessure aussi.
Qu'il y ait aussi une blessure pour que le sang puisse rentrer dans la circulation, c'est ça un peu.
Oui. Ingénieur Mangoyo, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, M. Jean-Marie.
On vous écoute.
Oui, bon, moi je voudrais un peu poser une question à notre invité.
Oui.
Est-ce qu'ils collaborent avec avec le gouvernement, notamment le ministère de la Santé. Parce que le problème des VIH qu'il a, généralement ici, c'est le problème déjà que les personnes qui sont déjà atteintes, souvent tout le monde n'a pas accès aux médicaments réservés. Est-ce que, et avec leurs contacts qui sont avec le gouvernement, est-ce qu'ils ne peuvent pas insister pour que, rapidement, parce que chaque gouvernement s'organise pour éradiquer cette pandémie, pour que désormais qu'on puisse produire ces médicaments sur place, notamment par notre société, la pharmacie. Est-ce qu'ils ne peuvent pas insister parce que hier, quelqu'un a dit non, c'est sur la table et tout ça. Mais ça fait longtemps que ce dossier est sur la table. Est-ce que, qu'est-ce que le gouvernement fait? Qu'est-ce qui manque? Pourquoi le gouvernement, et pourtant l'usine est déjà implantée, pourquoi il n'arrive pas à subventionner Pharmacina pour que désormais on ait autant de médicaments et puis les gens aient accès à ces médicaments? Donc je voudrais savoir si vraiment ils insistent dans ce sens-là. Sensibilisation, c'est bien. Il faut s'en tenir. Il y a des gens qui sont déjà atteints et n'ont pas de médicaments.
Merci, ingénieur. Ingénieur Mangoyo.
C'est ça le problème.
Merci, ingénieur. Aujourd'hui, nous parlons particulièrement de la stigmatisation. Mais, docteur, vous voulez répondre tout à l'heure à votre préoccupation. À Kiaye, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour.
Mais qu'est-ce que vous avez à nous dire à propos de la stigmatisation envers les personnes vivant avec le VIH-Sida?
Bon, j'avais en réalité deux questions à poser à l'invité.
Oui.
Bon, premièrement, je voudrais savoir en réalité comment réduire les risques de transmission du VIH par le lien maternel. Parce que lui, il parlait de la prévention. Mmh. Deuxième question, c'est en rapport avec le voile de non-transmission du VIH. En réalité, le fait de porter les mêmes vêtements avec quelqu'un qui est VIH, et surtout les vêtements intimes, parlons peut-être de sous.
Des sous-vêtements.
Par exemple, chez une femme ou une personne vivant avec le VIH, c'est de porter enfin, de partager déjà des habits, qui a risque éventuel d'une transmission du VIH. J'allais juste expliquer mon nom, c'est Akiak.
Akiak.
Voilà, Akiak, oui.
Merci, Akiak. Docteur Boulet.
Ouais. Bon, Akiak, merci beaucoup. Je prends la dernière question par rapport au underwear. Donc, les sous-vêtements,
oui.
Je crois hygiéniquement, nous ne pouvons pas les faire. Hein? Même si on n'est pas porteur de l'infection à VIH, on ne peut pas les faire. Donc, moi, je crois que c'est explique que je vois les gens partager
les sous-vêtements.
Les sous-vêtements, hein? Oui. Là, je ne le crois pas.
C'est un usage personnel.
C'est un usage personnel, c'est bien. Alors, par rapport à la
réunion... Mais dans le cas de studio, si, il arrive que des personnes partagent des sous-vêtements.
Mais je vous ai parlé des liquides qui contiennent le virus. Il y a des liquides qui contiennent le virus. Je vous ai parlé des sécrétions vaginales. Mmh. Je vous ai parlé du sang. OK? Si la personne a eu ses règles, OK?
Mmh.
Et surtout chez les filles. C'est pas normal que... Il y a un risque. Il y a un risque parce que ce liquide-là, probablement, il y a le virus qui est là et il peut y avoir contamination.
Mmh.
Parce que vous savez, chez la femme, biologiquement, la femme est trop faible, hein, avec tout ce qu'il a comme vagin. Et c'est une grande porte d'entrée. Là, il y a un risque. Il y a un risque, donc je crois qu'on ne peut pas arriver jusqu'à... à partager des linges ou des sous-vêtements.
Oui.
Et par rapport au lait maternel, le lait maternel, pour le moment, nous disons que le lait maternel peut passer le virus, mais pas, c'est aux alentours de 35%. Hein, mais la femme, on lui fait une éducation pour que, qu'il puisse prendre très très soin de son mamelon là, pour qu'il n'y ait pas de crevasse, pour qu'il n'y ait pas de... Donc, mais la meilleure des solutions serait beaucoup plus de ne pas allaiter. Mais ça, c'est une solution extrême. C'est pour les gens qui ont un peu de moyens. Mais actuellement...
Alors, l'enfant est mort de sa maman pendant la
tétée. Ça aussi, c'est un risque. Il faut voir aussi l'hygiène buccale de l'enfant. Hein, l'hygiène buccale pour que l'enfant ne puisse pas aussi avoir des plaies dans sa peau, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Des précautions, oui.
Des précautions. Mais pour le moment, pour réduire ça, nous donnons, si la femme est sous ARV, il est sous ARV, il y a une nette diminution de cette probabilité de transmettre l'infection au VIH par le lait maternel. Ça, c'est un avantage. Si la femme a une charge virale qui est indétectable, c'est très, très difficile pour que, qu'on puisse avoir. C'est comme ça qu'on est en train d'aller, monsieur l'ingénieur, je crois...
C'est l'ingénieur Mangolo qui a parlé de la production des aérosols.
Non, c'est par rapport... On est en train d'aller, pour le moment, on était avec la PTM, la prévention de la transmission.
Ah oui,
et pour le moment, on est dans l'élimination de la transmission de l'infection à VIH.
De la mère à l'enfant.
De mère à l'enfant, c'est prouvé par rapport à ça. Par rapport à notre ingénieur, je crois que c'est notre rôle. Nous sommes du gouvernement américain, nous appuyons le gouvernement congolais à travers le ministère de la Santé et on fait le plaidoyer pour que le gouvernement arrive à le faire. Hein, donc, je peux me limiter par là. Mais je connais bien les dossiers de Pharmakina, ça c'est le rôle du gouvernement, le PNML espère répondre bien à cette question.
Docteur Richard Mokalinga est à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Kachama, bonjour aussi au docteur Monconfrère.
On vous écoute docteur Richard.
Oui, question à poser au docteur, en rapport avec VIH0, comment ils vont procéder? En considérant le tachybus et le taxi qui blessent les gens en longueur de journée, 3 ou 4 fois par jour. J'ai posé cette question quand je faisais ma formation de bioéthique, de CDV et de constructeur d'un ARV, qui n'a pas eu de réponse. Tout le monde semblait cacher la tête comme l'autiche dans le sable.
Bien, donc comment arriver à éliminer la maladie avec nos taxibus qui blessent les passagers, c'est cela?
3 ou 4 fois par jour.
3 ou 4 fois par jour. Merci docteur Richard. Jeff nous appelle des Kalimi au Katanga, il est infirmier. Bonjour Jeff.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question?
La question est celle-ci.
Oui.
Je disais que quand quelqu'un est en train de vivre une façon de virus et du sida, et alors qu'il y a une porte d'entrée chez nous, et il y a une blessure et le sang coule. Et une autre personne est toujours d'intervenir après 5 minutes après. Est-ce que cette personne doit être contaminée ou pas? Parce qu'on dit quelque part là-bas que le virus du sida ne peut pas résister après 5 minutes. Ça doit se donc ça doit mourir.
Merci, docteur Voulou.
Oui, je vais. Il y a le confrère docteur Richard.
Mm-hmm.
Docteur, l'objectif zéro VIH-SIDA, c'est possible. Hein? C'est possible. On en a le moyen et pour le moment. Avant, on ne connaissait pas tous les mécanismes. Mais pour le moment, on connaît un peu mieux comment le virus agit. Hein? Donc, même au début de ma carrière, quand j'ai commencé comme médecin, on n'avait qu'une classe des antirétroviraux. Au jour d'aujourd'hui, on en a plusieurs, donc on se connaît beaucoup pour le moment. Mais pour ce qui est des taxibus, moi je crois que ça c'est la part aussi du gouvernement, que nous devons beaucoup plus insister. Même nous aussi, c'est notre part aussi. Hein, comment nous tolérons aussi, parfois on dit 5-5 Naban, 6-6 Naban, et les gens acceptent.
Heureusement que cette pratique n'est plus. Depuis un certain temps, on n'est plus 5-5 Naban.
Ok, donc.
4-4 Naban.
Okay. Donc, je crois qu'avec les amis aussi, les associations des chauffeurs, on doit les sensibiliser aussi pour qu'on ne puisse pas arriver. Il y a aussi l'éducation de la masse. Quand ils voient un taxibus, tout le monde court. Alors, c'est l'éducation qu'on doit beaucoup plus centrer.
Oui.
Par rapport à notre ami Jeff, je crois que le virus de VIH, à l'air libre, il ne prend même pas ces 5 minutes dont tu parles. À l'air libre, il est parti. OK? Ça, c'est ce que tu dois retenir. De deux, quand 5 minutes après, les 5 minutes, ça veut dire quoi? Mais parce que nous savons qu'une goutte de sang, on ne sait pas. Toi, tu es infirmier, même les commets des mortels. S'il y a une goutte de sang, parfois ça fait 2 heures du temps, 3 heures du temps. À l'extérieur, tu vois, c'est sèche. Mais quand tu ouvres, tu vois que vraiment c'est encore frais, la goutte. Alors, tant que le virus aura trouvé son endroit favorable de résister, il résistera. Hein? Donc, dans cette goutte-là, si la goutte n'est pas sèche à 100%, s'il y a quelques poussières de sang fraîche qu'il peut résister, il résistera. Donc, éviter seulement d'être en contact avec ce sang.
Alors, par rapport à, on va clôturer, j'ai en train de parler de la stigmatisation, dont les personnes, les PVV sont victimes. Donc, la meilleure façon de lutter contre cela, vous avez dit, c'est par la sensibilisation de la communauté.
La sensibilisation de la famille d'abord.
La famille d'abord,
la conscientisation, la sensibilisation. Après la famille, on passe par la communauté, et la communauté, on passe au niveau de la société. Et ça aussi, il n'y a pas que la sensibilisation, il y a aussi les outils de plaidoyer. Hein? Donc, essayer d'expliquer aussi les gens sur la loi portant protection des personnes vivant avec le VIH. Ça aussi, c'est un axe très, très important par rapport à la lutte contre la stigmatisation.
Docteur Voulu Mindongo, expert en conseil de dépistage volontaire CDV, je vous remercie.
Merci beaucoup, Radio Kafou, pour m'avoir donné aussi l'opportunité d'intervenir.